que disent les Québécois quand il fait un temps pluvieux sans fin? C'est un temps à jouer aux fesses. Bon, soyons sérieux. Ce soir, France 5, 20h40, drone tueur et guerre secrète. Obama, le prix Nobel de la paix, s'en sert pour sa lutte contre le terrorisme au Yémen, en Afghanistan, au Pakistan. Et tant pis pour les dommages collatéraux. Hollande aussi, il veut ce joujou pour sa guerre au Mali. Et l'on pense tout de suite au livre de Ziegler, La haine de l'Occident. Des kamikazes pour les pauvres, des drones pour les riches. Au revoir.
J'espère qu'aucun AMG ne se moquera de Marine Le Pen et de sa chute dans la piscine sur le répondeur. Non, parce que ça serait vraiment de mauvais goût. Bah ouais, quoi, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Et puis ça serait pas sympa de se moquer. Non, franchement, hein. Non, faut pas se moquer.
Bonjour Daniel, c'est Hervé de Maastricht. Je dois dire que je suis toujours contre tout ce que tu dis. Mais là, sur le fado, tu parles merveilleusement bien du fado. Merci parce que tu parles très très bien. Tu as le juste mot, me semble-t-il, pour décrire l'atmosphère et ce qu'est le fado.
Oui, bonjour Daniel et toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, François de Nantes. Donc un petit message sur les États-Unis, je viens de lire un article, Monsanto a la loi avec lui aux États-Unis. Le président Obama vient de signer une loi qui ne permet plus aux tribunaux américains d'empêcher la vente et la plantation de végétaux OGM, même s'ils n'ont pas été approuvés par le processus des autorisations et quelles que soient les conséquences pour l'environnement ou la santé. Elle permet à Monsanto et à d'autres entreprises de vendre des semences OGM, même si celles-ci ont été déclarées illégales par la justice. L'adoption de cette loi témoigne de l'influence que certaines entreprises ont partout dans le monde sur les décideurs politiques afin qu'ils adoptent des mesures pourtant nuisibles à l'agriculture écologique, aux agriculteurs, aux consommateurs et à l'environnement.
Bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée des personnes âgées, solidarité pour les personnes âgées, handicapées, etc., etc. On vient de m'annoncer par lettre, moi je suis et âgé et handicapé, que la CARSAT Nord-Est vient d'éjecter, ainsi que moi-même donc, 15 000 ayants droit. C'est-à-dire que 7 millions d'euros ne sont plus distribués par la CARSAT pour financer les aides ménagères. Donc à partir du 31 mai 2013, il n'y a plus, dans la région Lorraine-Champagne-Ardenne, il n'y a plus d'aide ménagère pour 15 000 personnes. Merci le gouvernement.
Oui, bonjour, là-bas si j'y suis. C'est à propos de la fermeture de l'usine Doux à Pleucadec qui a fermé donc finalement. Bon bah c'est dommage parce que Doux c'est un bon patron, il a été le premier à faire travailler plus les gens là qui plument des poulets toute la journée parce qu'il avait entrepris le premier de supprimer les RTT. Il a eu près d'un milliard d'euros de subventions pour l'exportation des poulets vers le Golfe et puis 2 milliards de subventions aux aliments du bétail aussi. Et puis, il avait du coup embauché sa femme, Renée Doux, comme directrice générale, avec une rémunération de 38 000 euros par an. Mais bon, d'après Ouest France, du 3 novembre 2012, Doux doit rembourser 2,5 millions d'euros au fisc. Qu'on se rassure, la famille Doux, 146e fortune de France, garde toutes ses plumes. Salut!
Merci pour tous ces messages, chers AMG, et reprenez avec moi tous en cœur. À bas la dette, vive la banqueroute. Crise, chômage, récession, c'est à cause de la dette, nous sommes bien d'accord. Il faut réduire la dette et pour cela, il faut faire des économies, réduire les dépenses publiques, limiter les salaires, privatiser. Bref, il faut de la solidarité dans l'austérité. Voilà la chanson reprise du matin au soir par nos experts, nos économistes et nos brillants journalistes. Mais il y a une petite voix dissidente qui tâche de se faire entendre, pas aux heures de grande écoute évidemment, mais une voix qui dit non, la dette ne provient pas des dépenses publiques, la dette provient des énormes cadeaux fiscaux faits aux riches et aux grandes entreprises depuis des années, la dette provient des banques privées en faillite que l'État a renflouées, changeant une dette privée en dette publique. La dette provient de l'évasion fiscale et des paradis fiscaux où se retrouvent riches particuliers, grandes banques et entreprises du CAC 40 qui ne payent guère plus de 8% d'impôts. Voilà, entre autres, d'où vient la dette. il y a non pas une crise de la dette, mais une crise de la recette. Alors, faut-il la rembourser? C'est la question que se pose Attac dans un livre « Leur dette, notre démocratie ». Et c'est la question que se pose aussi François Ruffin, à quoi il répond « Vive la banqueroute », le premier livre des éditions Fakir. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous les ANG, bonjour tout le monde. Un message pour vous annoncer le prochain Café Repère de Rouen, donc qui aura lieu le jeudi 23 mai au Café Perdu, 44 rue d'Amiens. Nous pourrons échanger autour de la question de la mémoire, de son utilité, de sa transmission et de tout ce qui se rapporte à cette question de la mémoire. Voilà, donc c'était Johan de Rouen pour le Café Repère du jeudi 23 mai au Café Perdu, 44 rue d'Amiens à Rouen. Ciao.
Voilà, je voulais exprimer une petite colère. C'est à propos du missile, de ce coût 120 millions d'euros qui s'est scratché dans la mer. Et moi, je me demande, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 120 millions d'euros? Par exemple, donner à manger à ceux qui crèvent de faim, à ceux qui dorment dans la rue, à ceux qui n'ont rien pour se loger, enfin bref, à ceux qui n'ont pas de fric pour soigner. Puis tiens, au fait, le prix 120 millions d'euros, pour ça paraît immense, mais en fait, c'est le prix d'une étude scientifique pour la mise sur le marché d'un médicament, par exemple. C'est quand même un peu dur à avaler, ce gaspillage payé avec nos sous pendant qu'on nous fait la morale et qu'on nous rabat les oreilles avec la politique d'austérité. En plus, cette info est passée bien vite aux oubliettes dans la presse et j'ai pas entendu grand monde râler, ni s'indigner d'ailleurs, à croire que nous sommes tous des bénis, oui.
Tel un fleuve en crue que l'on ne pourrait contenir, la dette publique de la France ne cesse d'augmenter. L'eau monte sans qu'on ne puisse rien y faire. Oh ! Alors comment sommes-nous arrivés là,
hein ? Megabad.
Fin 2012, elle dépasse 1833 milliards d'euros. La dette française atteint aujourd'hui plus de 28 000 euros par habitant. Un constat alarmant, car année après année, la France s'endette de plus en plus.
Ça fait mal au derrière, hein?
Oh ça oui, mais moi je veux pas payer.
Cette dette ne sera jamais payée.
Jean-Luc Mélenchon.
À aucun moment, jamais dans l'histoire, des dettes de cette ampleur n'ont été payées. De la même manière que jamais les États-Unis d'Amérique ne solderont la masse de dollars qu'ils ont mis en circulation et qui ne correspondent à aucune valeur matérielle. Par conséquent, le monde entier est menacé par ce fait-là.
Absolument.
À l'intérieur duquel se pense la politique des Français et la politique de l'Europe. Cette dette ne sera jamais payée.
Comment s'endette la France? Bienvenue à l'agence France Trésor. Cela ressemble à une salle des marchés. Pourtant, nous sommes au beau milieu du ministère des Finances. Comme toutes les semaines, ici, on emprunte de l'argent.
2 milliards sur une échéance de 3 mois et 2 milliards sur une échéance de 6 mois.
De l'argent, on en a quand même grâce aux impôts que tu payes.
En 1993, un tiers de la dette était détenu par des étrangers. 20 ans plus tard, cette proportion a doublé.
Le crédit, c'est comme au casino, c'est toujours la banque qui gagne.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, j'y suis avec Thomas Coutreau, Johan Dubigeon et François Ruffin. À bas la dette, vive la banqueroute. Bon, alors on a trouvé la solution, là, ça tombe bien. J'ai deux petits bouquins qui nous donnent la solution au problème que nous nous posons. L'un est signé Attac et s'intitule « Leur dette, virgule, notre démocratie ». On a compris tout de suite qu'on va opposer le capitalisme à la démocratie. La crise de la dette prouve donc que capitalisme et démocratie deviennent incompatibles. C'est le début du chapitre 4 de ce bouquin. Et puis un autre bouquin sur un thème proche dont on va voir les différences. C'est un livre d'un certain François Ruffin, qui s'intitule « Vive la banqueroute » aux éditions Fakir. Et oui, Fakir n'est plus seulement un journal incontournable, c'est devenu une maison d'édition, dont voici le premier titre, n'est-ce pas, mon cher François Ruffin, signé de François Ruffin et de Thomas Morel, « Vive la banqueroute, comment la France a réglé ses dettes » de Philippe Lebel au général de Gaulle. Donc là, on a la solution pour la dette en France. Et nos amis d'Attac, évidemment, étudient cette dette et nous disent en quoi
Elle sert d'argument et d'alibi aux politiques dans lesquelles le gouvernement français, par exemple, persiste et signe. Et il voit là, nos amis d'attaque, un risque éminent pour notre démocratie. Alors, on commence par qui ? On commence, étant donné que François Ruffin fait quand même un petit peu partie de la maison, on va commencer par nos invités, c'est-à-dire nos amis d'attaque. Alors, nos amis d'attaque qui sont là, c'est Thomas Coutreau et Johan Dubigeon, qui vont parler au nom d'attaque. Est-ce que c'est bien présenté ? Est-ce que c'est bien ça que vous voulez dire ? Capitalisme et démocratie, il faut choisir incompatibilité, selon vous.
Je pense que oui, l'idée, c'est de partir de, justement du point de vue que la dette, c'est pas quelque chose qui est simplement une question comptable. C'est pas simplement quelque chose qui serait purement objectif et auquel on devrait tous se plier. La payer ou non, pour quelles raisons, à qui, c'est une question de choix politique. Et ce choix politique, pour nous, il est incompatible, le choix de la dette. Il est incompatible avec le choix de la démocratie, mais pas de la démocratie au sens où on l'entend, de la démocratie représentative, etc., qui est un peu devenu un mot creux, un lieu commun, mais l'idée d'une démocratie par en bas, radicale, d'une réappropriation démocratique de la part des citoyens et de l'ensemble de la population.
François Ruffin, définition de la dette.
C'est des engagements qu'on a contractés à l'égard des créanciers, c'est-à-dire des banquiers ou des rentiers. Donc c'est assez simple de mon point de vue. Maintenant, c'est comment on résout ça. Est-ce qu'on résout ça en respectant ces engagements ou bien est-ce qu'on s'assied sur ces engagements? Et ça, c'est une question politique.
Thomas Coutreau, une définition de la dette. Qu'est-ce que c'est que cette dette? Quand on dit le mot dette, chacun se dit... moi aussi j'ai des dettes ou bien j'en ai pas. Enfin, si j'en ai, il faut que je les paye. Si je veux pas les payer, il faudra que je les paye quand même. J'y serai contraint et forcé. Donc, quand on dit le mot dette, on se sent collectivement responsable, même peut-être un peu coupable d'ailleurs en tant que Français. On a trop dépensé. Il va falloir qu'on serre la ceinture. Quand on dit actuellement, il faut quand même qu'on fasse des sacrifices, ça suggère une certaine solidarité. Je crois qu'il y a une première confusion entretenu entre la dette personnelle, les dettes qu'on peut avoir chacun, et puis la dette publique, la dette de l'État.
Même au niveau individuel, quand vous avez un salarié intérimaire, précaire, qui est souvent à mi-temps, qui a du mal à terminer les fins de mois, et puis qui se voit assailli d'offres de crédit apparemment très avantageux, qui vont lui permettre de payer son essence, de s'acheter le frigo que ses enfants exigent, ou le téléphone portable. On a des situations comme ça de surendettement provoqué par un système de crédit facile et souvent à des taux usuraires, les crédits revolving, qui fait que des gens qui sont de bonne foi, des gens qui essaient simplement de joindre les deux bouts et de terminer les fins de mois, se retrouvent dans des situations inextricables. Et au bout du compte, il y a des procédures dans le Code civil, des procédures qui sont appliquées régulièrement en France, qui consistent à effacer une partie de la dette insoutenable pour des ménages qui ont été intoxiqués par des crédits faciles. Donc la dette, c'est pas toujours la responsabilité exclusive des débiteurs. Et alors, c'est encore plus vrai au niveau des États. Ce que nous disons dans le bouquin, ce qu'on analyse de façon un peu détaillée, c'est comment cette dette a été construite par les politiques économiques néolibérales depuis 30 ans. C'est pas une dette qui a été choisie par les citoyens, c'est une dette qui a été construite, imposée par des politiques fiscales extrêmement régressive. On nous a réduit les cotisations sociales, les impôts sur les plus riches, les impôts sur les successions, les impôts sur les grandes sociétés. Tout ça a été réduit au cours des 20 dernières années, soi-disant au nom de l'emploi, de la croissance, etc. Ça n'a pas eu du tout ses effets sur la croissance et l'emploi. Par contre, ça a creusé de façon abyssale la dette publique. On estime que 100 milliards d'euros par an, c'est le coût des baisses d'impôts et de cotisations consenties seulement depuis les années 2000.
Donc pour vous, pour attaque, et pas seulement pour attaque, on a une crise de la dette, mais on a d'abord une crise de la recette.
On a d'abord une crise de la recette, qui est due donc à ces politiques fiscales avantageuses pour les privilégiés, et aussi à la récession. L'énorme récession provoquée en 2008 par le cataclysme financier provoqué par la spéculation, par l'irresponsabilité des banques, a coûté aussi des dizaines de milliards au budget public. La récession a creusé encore les déficits de façon considérable. On estime à 20 points de PIB le coût sur la dette publique de la récession provoquée par la crise financière. À cela s'ajoute aujourd'hui le scandale qui est mis en évidence par l'actualité sur l'évasion fiscale. Donc là encore, c'est pas un état social prodigue, c'est pas des dépenses irresponsables des assurés sociaux qui expliquent le creusement de cette dette.
La France en panne, le pays est officiellement en récession, la richesse nationale, le PIB, a baissé pendant 2 trimestres consécutifs.
Merci monsieur pour la monnaie, monsieur tout gris et gris complet, à la moisson t'as se fauché, fauché le blé de nos pavés. Merci monsieur l'alter altruiste, nous sommes de bons éco-novices, intermigrants à l'imparfait, et sur vos champs de vieux jouets. Mais elle sonne creux la tirelire, monsieur a de nouveaux loisirs, mon cochon a le ventre en l'air, et c'est bien là, photo notaire. Mais ton pays, on dirait un moulin, nous le bon peuple, on est du bon grain, bon à broyer comme la farine, bon à malaxer et à faire ta cuisine. Merci monsieur pour le menu, salé comme un chien, et c'est du tout cru, tes impôts tireront comme te va le chapeau, pour bien nous voir en bas, parce que toi t'es d'en haut. Oh, c'est l'entremise des entreprises, on est mataillé et on a plusieurs chemises, mais une seule veste et un seul côté, comme ça on évite nous de les retourner. Intermutant, intermuable, faut changer de peau, mythe contribuable, faut changer de tango, pour faire danser misère, faire vibrer nos gros lots, pour amuser le maire, baisser nos calcifs pour subvention zéro. On n'est pas des gigolos, quand casse les dents, quand tombe les joues, on tient plus rien, ben on devient des loups.
Merci, merci monsieur, c'est quoi qu'on dit à monsieur?
L'austérité aujourd'hui en Europe, ça mène à la catastrophe. Donc l'irréalisme, c'est ceux qui pensent qu'on peut s'en sortir en fonçant plus loin dans le même mur et en appuyant sur l'accélérateur.
Meunier, t'es mort, ton état bat trop fort. Meunier, t'es mort, ton état bat trop fort. Meunier, 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 t'es mort, ton état bat trop fort. Meunier, 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 t'es mort. Ton état pas trop fort. Meunier, 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 t'es mort. Ton état pas trop fort. Meunier, 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 t'es mort. Ton état pas trop fort.
Si on feuillette le bouquin de François Ruffin, rappelle le titre « Vive la banqueroute », on voit que c'est une vieille histoire. On voit que les États, depuis que les États existent, ont des dettes. Et que la dette est une chose finalement normale qui est lié au fonctionnement même de l'État. Et quand ça devient prohibitif, quand vraiment ça coince, eh bien, on a recours à des méthodes plus ou moins expéditives. Mais vous êtes d'accord là-dessus, que la dette fait partie du fonctionnement de l'État, François ?
Oui, oui, oui. Nous, notre arme, c'est l'histoire, dans ce livre. C'est-à-dire que si on reste le nez collé au présent, on a le sentiment que c'est un problème technique qui réclame le recours à des experts et ainsi de suite. Et les experts viennent nous raconter en général, sauf ceux d'attaque, qu'il n'y a pas d'alternative au désendettement de l'État. Que la seule solution, c'est l'austérité, qu'il faut de la rigueur. Quand on regarde l'histoire, contre ce poison du fatalisme, contre cette résignation qui nous est instillée tous les matins, on a des solutions pour...
Tous les matins, mais pas à la radio, si. Ah bon?
Oula. Comment combattre cette résignation? C'est ça la question. Comment faire que les auditeurs en face se disent bon, l'austérité c'est pas une fatalité. Oui, on a des dettes, mais on peut peut-être s'arranger pour les régler autrement. Alors il y a des solutions. Une solution, c'est de regarder ce qui se fait ailleurs, ce qui s'est fait en Argentine, ce qui s'est fait en Islande. Nous, notre solution, c'est de regarder ce qui s'est fait dans le passé. C'est-à-dire, si la grande phrase c'est le c'est comme ça, donc ça pourrait pas être autrement. Bah si, ça a été autrement auparavant, donc demain ça peut être autrement. Alors, si on regarde dans l'histoire, je vais prendre quand même quelques exemples de ces alternatives au désendettement de l'État. Le premier qu'on cite, c'est Philippe le Bel. Donc, au départ de la construction de l'État français, on peut dire, en 1307, il fait face à une grave crise de la dette. Quelles sont les premières mesures de Philippe le Bel? D'abord, c'est de prendre la vaisselle chez les riches. C'est la première chose. Ensuite, de faire une taxe sur les aisés, de faire une dévaluation, puisqu'il introduit de l'argent à l'intérieur de sa monnaie en or. Et ensuite, à qui il doit de l'argent, notamment? À un ordre qui s'appelle les Templiers, qui a acquis des domaines considérables, qui a une partie du trésor du royaume. Qu'est-ce qu'il fait, Philippe le Bel? Il dit, c'est une secte. Ce sont des hérétiques. Puisque ce sont des hérétiques, ils pratiquent la sodomie, ils crachent sur la croix, c'est vraiment pas très bien. Donc qu'est-ce que je fais? Je réquisitionne, je prends leurs biens, je fais brûler leur chef et je les mets en prison. Et suite à ça, le problème de la dette est réglé.
Vous dites, François Ruffin, que vous vous inspirez de l'histoire. Est-ce que ça veut dire que vous trouvez là la solution pour aujourd'hui ? On va traiter les créanciers du pays de sodomites, on va les brûler.
Mais par exemple, on est à côté de nos camarades d'attaque, où on vous avait cité le CADTM tout à l'heure, qui réclament tous les deux un audit public de la dette. Sully.
Même un tribunal de la dette, oui.
Sully, bah, je prends les deux. Sully, ministre de Henri IV, qui a sa statue partout, il y a des noms de rues et tout ça, qu'est-ce qu'il fait suite aux guerres de religion? Il met en place cet audit public de la dette, c'est-à-dire déjà il cherche à savoir combien on doit, et ensuite il dit bon bah, tel truc on va pas le payer. On a des dettes à l'égard des Suisses, on s'en fiche. Les dettes à l'égard des rentiers lyonnais, on s'assied dessus à hauteur de 40%. Et il va faire le tri dans les dettes, et il va en éliminer un certain nombre. Ça, c'est un homme qui est reconnu comme un grand homme d'État, qui met en place ça. C'est-à-dire, il est plus radical dans ses actes que ne l'est aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, par exemple, dans ses discours. Mais de la même manière, Colbert, vous parliez d'un tribunal. Que fait Colbert ? Louis XIV est dépassé par son surintendant Fouquet, qui est plus riche que lui, qui étale sa richesse et puis tout ça. Il dit, oh, Fouquet, attention, il me prépare un coup d'État, là, c'est pas bien, Fouquet. Je le prends, je le mets en prison, je lui fais un procès, je l'expédie à la frontière italienne, je prends ses biens, mon problème de la dette est partiellement réglé, mais surtout, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que derrière, Colbert instruit le procès des 494 oligarques du royaume et des grands gestionnaires de fortune du royaume, et il leur fait un procès tel, ils ont tellement peur de perdre la vie, qu'ils sont contents, finalement, qu'on dise, bah, finalement, le royaume ne vous doit plus rien. Et ils en sortent heureux parce qu'ils ont encore leur vie et quelques biens. Ce sont pas des utopistes. Je vous parle pas, moi, mes héros, vous les voyez. Raymond Poincaré, Sully, Colbert, Philippe le Bel, Talleyrand. On n'a pas là affaire à des utopistes, à des illuminés, mais à des gens qui ont construit l'État et qui ont construit la France, y compris parfois par des épisodes de banqueroute.
Si nous arrêtons de payer notre dette.
Jacques Attali.
J'ai pas dit ça, hein.
Si nous menaçons d'arrêter de payer notre dette. D'abord, il faut se souvenir...
France 2, 25 avril 2012.
...que à peu près la moitié de la dette de l'État français est détenue par des Français. Donc, on devra menacer aussi les épargnants français.
Ah, donc, bon. Monsieur Attali, faisons une pause.
Non, non,
le contenu de la dette
non,
doit être... Attendez,
mais laissez-moi aller au bout de ma phrase.
Et puis vous parlez. Le contenu de la dette doit être examiné.
Laissez-moi
je suis partisan
aller
d'un audit citoyen de la dette.
Il termine et vous répondez.
Je ne proposerai pas de ne pas rembourser mes compatriotes.
Tout le monde le sait. La moitié de la dette appartient à des Français, l'autre moitié appartient à des Européens et à des non-Européens. Si nous décidions de cela, il faut, pour qu'une menace ait du sens, il faut qu'elle soit crédible. La réaction de ceux qui entendront ça sera un immense éclat de rire. Parce que ce n'est pas crédible.
J'ai évoqué tout à l'heure un cas extrême, la menace absolue.
Jean-Luc Mélenchon.
Mais vous savez, monsieur Attali...
C'est une menace suicidaire, donc elle n'est pas crédible.
Et alors, monsieur Attali, vous devez dire la même chose de l'arme nucléaire.
L'arme nucléaire n'est pas crédible en tant qu'arme autre que suicidaire,
c'est
évidemment.
C'est une arme posthume. Mais elle fait réfléchir suicidaire. Tous ceux qui voudraient nous agresser.
C'est une arme suicidaire, et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas utilisée.
Non, c'est parce que les autres n'attaquent pas.
Attaque, dites-nous, à qui nous empruntons quand on dit, là, Ruffin nous dit, voilà, les Templiers, les uns, les autres, etc. Aujourd'hui, à qui la France doit-elle cet argent ?
Il y a une grande diversité de créanciers. Il y a des créanciers qui sont d'abord des acteurs institutionnels français, comme des grandes banques, les grandes compagnies d'assurance françaises, qui, pour une part, collectent l'épargne des ménages, l'assurance vie, des fonds de placement pas spécialement spéculatifs, qui vont notamment s'investir dans des obligations d'État. Donc ça, c'est une partie des créances qui sont légitimes, qui reflètent une part de l'épargne des ménages, et qui doit être honoré, qui doit être respecté. Ça peut être rééchelonné, ça peut être... Mais il ne s'agit pas d'annuler, de spolier les épargnants, les petits épargnants ou les moyens épargnants. Bon. Ceci dit, toute une autre partie des créances est effectivement détenue par des fonds d'investissement spéculatifs, pas nécessairement anglo-saxons, ça peut être aussi des fonds d'investissement bien de chez nous, bien français, ou alors des fonds de pension souvent anglo-saxons. Alors là, c'est encore une autre chose, parce que c'est l'épargne d'un certain nombre de salariés, américains, britanniques, néerlandais. Bon, donc, il faut traiter de façon différente ces différents types de créanciers. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas. Alors, nous savons qui sont les investisseurs institutionnels qui détiennent, par exemple, AXA, des fonds de la BNP Paribas, toute une série de grands investisseurs institutionnels français et étrangers. On sait que ce sont ces investisseurs qui détiennent les titres de la dette publique française, mais on ne sait pas qui sont leurs clients derrière. Et on ne sait pas comment est concentrée cette épargne.
C'est ce que dit Frédéric Lordon à la fin du bouquin « Vive la banqueroute ». Là, il y a un entretien avec Frédéric Lordon qui dit « C'est comme la saucisse, quand on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans ».
Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin d'un audit très précis, non seulement de l'origine de la dette, mais pour voir voilà qu'est-ce qu'il y a parmi ces créanciers. Dans quelle mesure est-ce que ce sont des petits épargnants et dans quelle mesure ce sont des fonds spéculatifs, des gros investisseurs qui essaient de spéculer sur les dettes publiques, ça existe aussi. Mais ça, c'est opaque. Donc, on a besoin de cette transparence pour pouvoir décider ensuite qu'est-ce qu'on fait de ces titres. La solution de l'euthanasie généralisée des rentiers n'est pas forcément la bonne. Je pense qu'il faut voir qui sont les détenteurs, dans quelle mesure est-ce qu'on peut les exproprier purement et simplement. Alors, quand on voit ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne à Chypre, ça donne un précédent intéressant, hein, puisque dans un premier temps, ils avaient dit on va confisquer une partie des avoirs de tous les titulaires de comptes dans les banques chypriotes. Et puis finalement, ils se sont limités aux comptes supérieurs à 100 000 euros. Bon. C'est un précédent intéressant hein, dans le chemin dans lequel on pourrait s'engager. Parce qu'effectivement, une taxe sur les très grandes fortunes, alors peut-être 100 000 euros, ce n'est pas encore des très grandes fortunes, mais une taxe confiscatoire, disons, de l'ordre de 50 à 70% sur les patrimoines dépassant, par exemple, 1 million d'euros, ça serait une manière tout à fait... Et visiblement, la politique de la Commission et de la BCE commence à légitimer ce genre de mesures. Hein. On n'en est plus très loin. Ça serait une manière partielle, mais tout à fait intéressante, d'annuler une partie importante de la dette publique.
Depuis 2009, la France a réduit...
José Manuel Barroso.
De moitié son déficit nominal. Il y a eu un effort très sérieux sur
mais
le déficit
structurel.
Mais vous demandez
que cet effort continue.
Mais bien sûr, parce que la dette en France reste extrêmement élevée.
Il y a aujourd'hui un déficit d'une quinzaine de milliards d'euros. C'est insoutenable.
On va toujours faire la cure à la soupe populaire. Où on rappe du sans-papier avec l'art et la manière. Il y a longtemps ça portait le même nom qu'on ne peut plus taire. Quittant la patrie pour la survie par la traite négrière. Je paie pas pour que les uns aient plus, les autres pas. Pas pour la gonflette sécuritaire et nous on part. Je peux pas, y'a trop d'infos corrompues. À force de pas de passion, de contrôle, mec, j'suis perdu. Et j'm'en bats de ce qu'on raconte. J'fais du populisme, j'veux pas l'affectif, ni par sentimentalisme. Sarko le roi d'un bois, fait son sac à Versailles. Il va nous la fourrer pour qu'on finisse en victoire. On est sans cesse des patrons noirs toujours destitués, qui ne peuvent être fédérés au grand projet. Ah, ça va à l'encontre de la conscience démocratique. Oh, plus d'exécu, ça m'étrique. Je peux pas, c'est sûr qu'on a du fric pour enfouer les banques. Mais pour sauver le service public, là, ça manque. Et y'a pas de contre-pouvoir, y'a que des avatars. Des affairistes au pouvoir, qui disputent le bout de l'art. Mais moi, je peux pas, pour ça, non. Je peux pas, l'en s'en passant. Mais qu'est-ce qu'on attend? Les fruits de la culture, du résultat. Je peux pas, pour ça, non. Je peux pas, pour ça, non.
François, à travers votre chronologie des banqueroutes successives, est-ce qu'on trouve les mêmes subtilités, les mêmes analyses? Ou bien est-ce que ça a été toujours assez brutal, ces façons de réduire les dettes par la banqueroute?
De toute façon, quand on parle de banqueroute, toute banqueroute est toujours partielle. C'est-à-dire que ceux qui l'opèrent, j'ai parlé de Sully, j'ai parlé de Colbert et ainsi de suite, le font en triant. Il ne faut pas croire que c'est une faillite généralisée de l'État. C'est toujours un tri sur, on n'a plus de lien diplomatique avec l'Allemagne, on peut ne pas payer les rentiers allemands. On s'en fiche des rentiers parisiens. Et surtout, une leçon de cette histoire, c'est le rapport de force. Il y a la construction permanente d'un rapport de force entre le souverain, soit c'est le peuple qui est souverain, soit c'est le monarque, et ses créanciers.
les rentiers, les banquiers italiens, les banquiers lyonnais, ainsi de suite. Il y a la construction permanente d'un rapport de force. Or, aujourd'hui, ce qui paraît ne plus exister, c'est la construction de ce rapport de force. On plie d'avance. Le genou est à terre. On se demande pas, bon, bah, est-ce qu'on règle, est-ce qu'on règle pas, qui est-ce qu'on règle, qui est-ce qu'on règle pas, à quelle hauteur? Ces questions ne sont plus posées, alors qu'elles l'ont été pendant des siècles. On cite une phrase de Kenneth Rogoff, donc, qui est un ancien chef économiste du FMI, qui écrit ceci. Entre 1500 et 1800, la France a répudié ses dettes en 8 occasions. Comme les rois de France avaient pris l'habitude de mettre à mort les grands créanciers nationaux, une forme ancienne et radicale de restructuration de la dette, le peuple avait fini par appeler ces épisodes des saignées. C'est-à-dire que c'était devenu une tradition. À la fois opérer la banqueroute et éventuellement, si les rentiers et les banquiers se rebellaient, d'y aller un peu plus vivement sur le terrain de la prison et ainsi de suite. Quoi.
Donc c'est dans cet agenouillement et dans cette soumission du pouvoir politique au pouvoir des rentiers et des financiers que vous voyez un risque pour la démocratie que Johann Dubigeon vient de définir, non pas comme la démocratie représentative actuelle, mais une démocratie que vous souhaitez évidemment plus directe.
Oui, effectivement, mais moi je rejoins bien ce que vient de dire François justement. L'intérêt de cet exemple historique, c'est de voir à quel point aujourd'hui, alors que formellement justement, on est censé avoir un pouvoir politique représentatif du peuple, à quel point aujourd'hui on a une collusion entre les créanciers, donc le pouvoir financier, et les représentants politiques, qui est extrêmement forte, peut-être plus forte encore qu'à cette époque-là. Donc c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui se radicalise, et aujourd'hui même des exemples d'actualité très concrets, comme l'affaire Cahuzac, comme tout un tas d'affaires, la question des paradis fiscaux, montrent à quel point justement cette collusion entre classe politique et classe des financiers, elle est extrêmement forte.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de généraliser? Parce que c'est pas comme ça qu'on nous présente les choses. On nous présente Cahuzac comme le fruit pourri dans le panier et il faut l'enlever. On nous présente toutes ces affaires-là comme des dysfonctionnements dont on va s'occuper, que dénonce la presse la plus courageuse et la plus engagée.
En fait, et c'est ce que vient de dire Thomas en partie, c'est quelque chose de bien plus profond que ça. Il faut voir que, par exemple, on estime que l'évasion fiscale aujourd'hui en France, ça représente entre 60 et 80 milliards d'euros par an. C'est quand même plus que le budget de l'éducation nationale. Donc c'est pas un petit Jérôme Cahuzac ou un ministre par-ci par-là qui serait l'unique brebis noire dans le troupeau, je dirais. C'est vraiment un problème plus profond que ça. Alors certes, on va pas nourrir dans la démagogie à dire que tout se pourrit, etc. C'est pas forcément ça le problème. Le vrai problème, c'est de voir justement qu'il y a vraiment une fracture réelle entre les représentants politiques et les représentés, c'est-à-dire le peuple, la majorité de la population et des citoyens. La question de la dette, on ne peut pas justement la régler de manière purement technique, mais qu'elle a vraiment quelque chose à voir avec cette question de la réappropriation démocratique. Ça passe par des choses concernant les banques, voilà, on parlait de la levée du secret bancaire, la question de l'interdiction des paradis fiscaux, mais au-delà de ça, ça passe par des questions politiques de justement comment faire en sorte que les politiques ne soient pas au service de cette couche de financiers.
Alors, votre réponse à la question que vous vous posez, c'est quoi?
Alors,
comment faire en sorte que...
La réponse, alors,
nous,
ça peut être
pas des questions. C'est moi qui les pose, les questions. C'est vous qui apportez les réponses.
Non, mais les réponses que nous, on propose, c'est que déjà, de toute façon, ça passe par la question des mobilisations populaires. C'est-à-dire que la question du rapport de force, à quel point est-ce que on peut peser, au minimum peser sur nos représentants pour dire, attention, il y a un véritable problème démocratique. C'est à nous de choisir à qui on paye cette dette, pourquoi on la paye, est-ce qu'on la paye ou non. Cette mobilisation-là, qu'est-ce qu'elle peut porter, à notre avis, comme type de proposition de revendication? D'un point de vue politique, c'est des choses aussi concrètes que l'interdiction du cumul des mandats. Et l'idée aussi que le vrai problème de fond, c'est que la plupart des représentants sont complètement déconnectés de la réalité. Donc c'est l'idée de dire, par exemple, des choses qui ont existé historiquement, puisqu'on parle d'histoire, la Commune de Paris. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Commune de Paris, à la fin du 19e siècle? Elle a décrété déjà première chose que les représentants allaient avoir le revenu moyen, c'est-à-dire... On calculait le revenu moyen de la population et allait gagner la même chose. Ça, c'est une première chose. Il y avait l'idée que toute la fonction publique, et pas uniquement les représentants politiques, mais l'ensemble de la fonction publique, devait être élue et devait être révocable en permanence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on élit François Hollande sur un programme, tout le monde se rend bien compte qu'il n'applique absolument pas même les quelques promesses qu'il avait faites, et pourtant, on est obligé d'attendre 5 ans, d'attendre que ça se passe, éventuellement d'aller protester dans la rue avec le maigre espoir que ça puisse changer des choses. Donc la question de la révocabilité permanente, ça c'est un autre point. Et au-delà de ça, nous ce qu'on défend aussi dans ce bouquin-là, c'est l'idée de dire que une démocratie, entre guillemets, plus directe par en bas, etc. Ça peut pas être uniquement quelque chose de formel. Vraiment, l'idée de fond, c'est l'idée de réappropriation démocratique. La démocratie, elle s'arrête pas uniquement aux portes de l'Assemblée. C'est l'idée qu'il faut se réapproprier l'espace de décision, l'espace de délibération, aussi bien dans les quartiers, dans les lieux de vie, dans les entreprises, là où les gens travaillent. Et donc, c'est vraiment une reprise en main collective de nos affaires à tous les niveaux, au niveau financier, au niveau économique, au niveau politique, etc.
Il faut payer.
L'austérité, je suis fondamentalement hostile à l'austérité.
Alors comment sommes-nous arrivés là
Parce que l'austérité, c'est...
Jean-Marc Ayrault, 4 juillet 2012.
C'est l'affaiblissement de la France, c'est la multiplication des injustices, et on ne sortira pas avec l'austérité. C'est ce que nous combattons. Par contre, ce que je veux faire, je l'ai dit aux Français, la vérité, c'est qu'il faut sortir de la situation dans laquelle nous sommes, parce que nous héritons de 600 milliards d'euros de plus de dettes.
Mégabad.
Moi, je veux pas payer.
Vous savez qu'on rembourse chaque année 50 milliards d'intérêts d'emprunt. C'est ce que fait la France, qui dépend ainsi des marchés financiers. C'est qui correspond au budget de l'éducation nationale. Donc il faut en finir, mais pas dans n'importe quelle condition. Donc ce que je revendique, c'est le sérieux et la sincérité dans la gestion. Donc il y a des choix à faire, il y a des efforts à faire, mais il y a une condition pour qu'il soit accepté, c'est qu'il faut qu'il soit juste.
Il faut payer.
La dette nous concerne, c'est pas seulement une discussion entre les militants d'Attac ou François Ruffin ou là-bas si j'y suis. C'est que cette histoire de dette est tellement imposée à nous comme une sorte de mur, de falaise. Cette image justifie l'austérité. On dit voilà, on a la dette, donc il va falloir se serrer la ceinture, il va falloir réduire les salaires, réduire le niveau de vie et toutes les mesures qu'on connaît liées à l'austérité à cause de cette dette. Thomas, est-ce que les dettes sont toutes mauvaises? Est-ce qu'il n'est pas, encore une fois, normal qu'un État ait des dettes? Comme une entreprise a des dettes, en fait c'est de l'investissement. On va placer de l'argent dans telle et telle branche, dans tel et tel domaine d'investissement, et ça rapportera ou ça rapportera pas, et on peut considérer que ça fait partie du passif de l'entreprise. Est-ce qu'on n'est pas en train de confondre, là, habilement, derrière ce mot de dette, ce qui est simplement des investissements normaux qu'un État doit faire?
Oui, bien sûr, la dette publique, alors, la dette de l'État, tout dépend de ce à quoi elle sert, hein. Nous considérons que la dette financière actuelle est illégitime parce que les mécanismes qui l'ont créée sont des mécanismes qui ont profité à une élite, à une minorité privilégiée. Les mécanismes de moins-disant fiscal, de réduction des dépenses publiques et la financiarisation qui a amené à cette crise. C'est ça qui rend la dette publique actuelle illégitime dans notre point de vue. Mais la dette en soi, la dette publique n'est pas du tout quelque chose de condamnable. S'il s'agit de financer, par exemple aujourd'hui, on aurait un besoin urgent d'emprunt public pour financer des investissements publics, la transition énergétique, la substitution des énergies fossiles, des plans de réduction massive de la consommation d'énergie. Tout ça nécessiterait des investissements publics massifs qu'on peut estimer à 3 ou 4% du PIB hein, sur plusieurs années.
Alors ces investissements-là, on pourrait considérer que c'est de la dette.
Bien sûr, on pourrait les financer par l'emprunt.
Pour vous, ce sont des investissements. Pour d'autres, ce sera considéré comme un accroissement de la dette.
Pour tout le monde, ça serait un accroissement de la dette publique, mais la question c'est...
Oui, c'est pas les mêmes mots. Investissement et dette, c'est pas le même mot.
On s'endette pour financer des investissements, donc c'est l'autre face de la médaille. Simplement, si ces investissements permettent ensuite de réduire de façon considérable, par exemple, les importations de pétrole, bah, c'est des investissements qui sont hautement rentables pour l'ensemble de l'économie et qui vont permettre un remboursement assez facile de la dette. La question, c'est aussi de pas s'endetter auprès de n'importe qui. C'est-à-dire qu'on peut s'endetter auprès des ménages, on peut s'endetter auprès des banques si elles n'ont pas des comportements spéculatifs de court terme, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Par contre, s'endetter sur les marchés financiers, aujourd'hui, c'est se mettre dans la main de la spéculation mondiale. Et ça, c'est évidemment à éviter. Ce qu'on dit aussi dans le bouquin, et ça, je pense, c'est très important, c'est que l'idée même de dette est fondamentale pour construire une société. C'est évidemment l'idée de la dette sociale, c'est-à-dire que nous naissons tous avec une dette envers la société. Par exemple, les systèmes de retraite par répartition, c'est une forme de dette sociale par laquelle les actifs d'aujourd'hui financent les retraites des actifs des générations précédentes. Donc il y a comme ça un système de reconnaissance de dette sociale intergénérationnelle qui crée de la solidarité dans la société. Et ça, c'est extrêmement important. Ce que veulent faire les néolibéraux, c'est financiariser cette dette sociale. C'est-à-dire, en privatisant les régimes de sécurité sociale, en introduisant la capitalisation, transformer cette dette sociale en dette financière. Et ça, évidemment, c'est absurde, inacceptable, parce que ça aboutit à jouer la retraite au casino.
Il faut payer.
Le crédit, c'est comme au casino, c'est toujours la banque qui gagne.
Payer, pago, payer, pago, payer, pago, payer, pago.
François Ruffin, là, dans votre bouquin, vous évoquez tous les moyens utilisés dans le passé pour débarrasser des dettes par les États. Il y a quand même des recettes et des procédés qui aujourd'hui seraient difficilement acceptables. Hein. On utilise assez rarement les guillotines et tout ce genre de matériel maintenant est un peu désuet, peut-être pour un certain temps, ça reviendra peut-être. Mais parmi les méthodes récemment employées pour réduire les dettes, il y a l'inflation qui permet de spolier les épargnants, c'est ce que les épargnants diront, et ça a permis récemment dans l'histoire de réduire le volume de la dette. Dès qu'on dit le mot inflation, c'est un gros mot hein, dans le débat public.
Oui, d'un point de vue historique, nous on est reparti de Gaulle à la libération.
Ça sert toujours de bouclier ça, de Gaulle. Hein.
On les multiplie, les hommes progressistes, de gauche, radicaux, utopistes, hein, Raymond Poincaré, Colbert, ainsi de suite. Non mais en 1944 à la libération, il y a un grand débat dans le pays. Est-ce qu'il faut mener une politique d'austérité ou pas? Déjà. C'est-à-dire que Pierre Mendès France, à l'époque, ministre de l'économie et des finances, dit « il faut qu'il n'y ait plus d'inflation, il faut que les salaires stagnent, en tout cas qu'on aille vers moins de hausse de salaire, moins de hausse de prix, ainsi de suite ». Et De Gaulle ne le suit pas. Ne suit pas la politique d'austérité que Pierre Mendès France appelle une politique de facilité, qui est la politique d'inflation. Et le choix opéré par De Gaulle, soutenu par les communistes et ainsi de suite, va être un choix qui va être payant. Qui va être payant en termes de développement du pays, de reconstruction du pays, mais ça va être un choix qui est efficace en termes d'effacement de la dette, puisque en 1944, le poids de la dette comparé au PIB est de 269%, et 7 ans plus tard, en 1952, il est de 33%. Donc on voyait comment, par rapport au PIB, ça a été divisé par plus de 10 en 7 ans.
C'est une situation toujours particulière quand on se réfère à cette époque-là. Et on est dans une situation historique si particulière que c'est pas si...
Mais ça va continuer dans les années 70, en maintenant la même politique. De Gaulle revient, il tente de changer de politique et de faire une politique plus de rigueur, il n'y parvient pas. Dans les années 70, avec toujours ce choix de l'inflation, on va en arriver à effacer nos dettes. Et là, il va y avoir le grand basculement, ce qu'on va appeler le coup de 79, qui va être le choix d'une politique monétariste. C'est-à-dire que quand on dit, voilà, c'est parce qu'il y a des baisses d'impôts et ainsi de suite, c'est vrai, mais il y a un choix monétaire qui est effectué. Le choix monétaire, c'est de dire, il faut lutter contre l'inflation. Il faut lutter contre l'inflation avec 2% d'inflation maximum aujourd'hui au niveau de la Banque Centrale Européenne. Et ça, ça va s'ancrer dans les esprits, ça va s'ancrer dans les banques centrales pendant les années 80 et les années 90. Et donc, il est évident que là, il y a un grand basculement en renonçant à ce choix de l'inflation, quoi.
Attaque. Les deux auteurs parmi les quatre, hein, vous êtes quatre à avoir écrit ce bouquin, je rappelle le titre, Leur dette, notre démocratie. Ça vous semble une bonne méthode, la méthode Ruffin d'inflation, de coller de l'inflation, et est-ce que c'est acceptable? Est-ce que nos élus actuels applaudiraient le discours de Ruffin?
Des économistes pas forcément très à gauche, par exemple l'économiste en chef du FMI recommande à la Banque Centrale Européenne d'accepter des cibles d'inflation de 3 ou 4% plutôt que de 2%. Hein. Donc c'est une idée effectivement qui est présente chez beaucoup d'économistes. Bien sûr, l'inflation fait partie
des armes possibles.
Des armes possibles, et je dirais même nécessaires, hein, parce que face au problème de la dette, il va y avoir plusieurs manières de traiter le problème. Mais à court et moyen terme, je dirais qu'on n'échappera pas à des restructurations massives, comme on a déjà vu d'ailleurs. Le premier exemple, c'était le cas de la Grèce. Hein, on a quand même oublié que pendant des années, la Banque Centrale Européenne, et puis surtout nos amis de Bercy et les banquiers français, hurlaient en disant que restructurer la dette grecque, c'était donner la prime à l'irresponsabilité des Grecs, etc. Et finalement, on a quand même vu que l'année dernière, ils ont effacé 50% de la dette due à des créanciers privés de la Grèce. Ce qui était simplement d'ailleurs une manière de maintenir le couteau sous la gorge du patient sans l'égorger complètement. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il continue, que les flux d'intérêts continuent à alimenter le système financier sans que la Grèce fasse banqueroute. Parce que évidemment, si on n'avait pas restructuré la dette de la Grèce, elle aurait fait banqueroute, parce qu'elle ne pouvait plus payer. Donc la seule manière d'éviter la banqueroute, d'éviter le ce qu'on appelle le défaut aujourd'hui, ça a été de restructurer la dette. Mais c'était une restructuration qui a été menée par les créanciers. c'est très différent. Et là, les exemples historiques de François Ruffin sont intéressants parce que c'est complètement différent une restructuration de la dette qui est menée par les créanciers ou qui est menée par les débiteurs. Quand elle est menée par les créanciers, ça sert effectivement à maintenir la pression à la limite du supportable sans qu'elle dépasse le supportable, hein, et sans qu'elle aboutisse à une explosion. Donc là, ce qui a été fait pour la Grèce, c'est restructurer mais en maintenant la pression pour que les Grecs continuent à payer ce qui restait de leur dette publique. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est pas d'une restructuration menée par les créanciers, mais de restructuration menée par les débiteurs, c'est-à-dire qui soulage véritablement le poids des intérêts, le poids de la dette, et qui permettent à des pays comme la Grèce de retrouver une capacité de financement de leurs investissements et de leur économie.
Mariano Rajoy reste absolument sur sa ligne. Il ne parle pas de plan de sauvetage. Il fait donc tout pour rassurer. Il dit que c'est une ligne de crédit accordée par l'Union européenne.
Allô, allô, ici la zone euro. On dirait que les banques espagnoles sont candidates pour le pactole. Combien faut boire? 40 à 100 milliards. Accrochez-vous au farbatage, on est en présence d'un naufrage. C'est pas un plan de sauvetage, juste un petit remorquage. Les riches prennent le canot, les pauvres prennent l'eau. Pas une aide au pays, juste une ligne de crédit. Un nouveau genre de bouée, la bouée qui fait couler. Allô la chaloupe, ici l'Eurogroupe. Ta dette publique a explosé, tes comptes prennent l'eau de tous côtés. Et oh, toi là-bas, manœuvre ta TVA. Baisse les salaires, les aides sociales et passe la barre à l'amiral. Comme ça, les gens seront encore plus dans la misère, rembourseront encore moins leurs prêts bancaires, les banques auront à nouveau besoin de liquidités, l'Europe leur fera de nouveaux prêts qui aggraveront l'endettement de l'État. Alors le gouvernement augmentera la TVA, baissera les aides sociales et les salaires. Comme ça, les gens seront encore plus dans la misère, rembourseront encore moins leurs prêts bancaires, les banques auront à nouveau besoin de liquidités, l'Europe leur fera de nouveaux prêts qui aggraveront l'endettement de l'État. Alors le gouvernement augmentera la TVA, baissera les aides sociales et les salaires.
On survole rapidement les cas dans le passé, mais enfin, on a des cas aussi dans le présent. Si on prend l'Équateur, si on prend l'Argentine, si on prend l'Islande, voilà des pays qui ont eu un imaginaire économique suffisant, sans peut-être faire appel à des très très grands économistes, simplement en faisant marcher le bon sens et en repérant leurs adversaires, leurs ennemis, qui s'en sont sortis ou qui ont réduit considérablement leurs dettes. On sait comment en Équateur, il y a eu des audits très longs hein, de la dette de l'Équateur. On a trié les dettes qu'on devait rembourser, ce que disait Coutreau tout à l'heure, et puis celles qu'on n'était pas obligé du tout de rembourser. Donc on a des exemples. Est-ce que la France pourrait s'inspirer de l'Islande,
alors, le cas de
l'Équateur, l'Argentine, tiens.
Le cas de l'Islande est extrêmement intéressant parce que tout est parti de mobilisations populaires extrêmement fortes contre un plan qui visait à faire rembourser par les contribuables les dettes des banques islandaises qui avaient fait faillite. Donc les banques islandaises avaient spéculé de façon absolument grotesque. Au moment où la crise financière de 2008 a éclaté, les banques islandaises ont éclaté et l'Union européenne a décidé de faire payer aux contribuables islandais la facture. Les Islandais sont descendus par dizaines de milliers dans la rue. C'est un petit pays, donc des dizaines de milliers, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Pendant un an, ils sont descendus dans la rue tous les dimanches pour conspuer le Parlement qui voulait voter des lois faisant assumer cette dette par les contribuables. Au bout du compte, ça a provoqué une crise politique, ça a provoqué une série de référendums, et y compris même la convocation d'une assemblée constituante. Alors effectivement, l'Islande a répudié une grande partie de la dette de ses banques privées, les créanciers y ont été pour leurs frais. Elle a réussi, en dévaluant sa monnaie, à reconquérir une compétitivité économique, une croissance économique assez forte. Elle a mis sur place un processus de démocratisation avec l'élaboration d'une nouvelle constitution, avec des méthodes extrêmement modernes, innovantes, participatives, l'élection d'une assemblée constituante faite exclusivement de non-politiciens professionnels, avec une consultation large de la population, etc. Aujourd'hui, cette constitution est arrivée dans les mains du Parlement normal et a été en fait enterrée. cette nouvelle constitution ne sera pas ratifiée par le Parlement islandais, qui est composé des notables, des représentants des partis politiques islandais, et qui n'a pas envie de faire adopter une nouvelle constitution qui contient des règles, effectivement, assez dangereuses et assez gênantes pour les représentants politiques. Des règles qui prévoient des contrôles plus stricts des citoyens, de la révocabilité, ce que disait Johan tout à l'heure, une série de mesures qui instaurent des contrôles plus stricts des citoyens sur les élus. Et donc, cette nouvelle constitution ne sera pas promulguée. Et les citoyens islandais, apparemment, ne sont pas en train de redescendre dans la rue pour exiger la promulgation de cette constitution. Finalement, la croissance économique est revenue, les choses ont repris un peu leur rythme de croisière, et donc cette rénovation démocratique qui a failli être possible en Islande, apparemment pour l'instant, a échoué. Donc on a vraiment un exemple finalement un peu décevant de rénovation radicale des règles du jeu démocratique. Mais je crois que l'Islande est vraiment un cas d'école qu'il faut étudier et duquel on peut s'inspirer, en particulier évidemment pour le traitement de la dette laissée par les banques, hein, qui a été effectivement assez radicale dans le cas d'Islande.
François Ruffin, les mêmes observations que Coutreau?
Dans le dernier numéro de Fakir, on fait...
Qui n'est pas métro, il faut que vous ne confondez pas, voilà. Si vous êtes mais auditeurs distraits.
On fait un comparatif entre les faillots et les cancres. Les pays qui sont des faillots, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire tous ceux qui suivent le FMI, qui suivent l'Union européenne, qui suivent la Commission, c'est la catastrophe. Tous ceux qui ont été des cancres, ou qui sont des cancres, qui décident de s'asseoir sur ces méthodes-là, de faire un bras d'honneur au FMI, bah, ils s'en sortent un peu mieux. C'est pas le paradis sur Terre, hein. L'Argentine, l'Islande, la Malaisie. Mais c'est mieux que ça n'a été au milieu de la tourmente monétaire des années 90, la Corée du Sud, que le Portugal aujourd'hui, que la Grèce, ainsi de suite. Donc je pense que là, il y a une vraie leçon au présent à tirer. C'est effectivement, si on est des faillots, on risque d'aller dans le mur tranquillement.
Je voudrais quand même, pour finir, vous poser la question suivante. Vous avez... François Hollande, qui vous a écouté là, tous les trois, et qui dit ils sont quand même pas mal ces gars-là. Il me rappelle quelque chose que j'avais dit l'année dernière où Bourget, c'était quoi déjà? Ah! Mon ennemi, c'est la finance. Je vais leur demander de venir me voir et de me dire qu'est-ce que je peux faire par rapport à tout ça, par rapport à la dette. François Ruffin.
Pour le convaincre, enfin, je lui dirais que c'est par ses mesures iconoclastes qu'il deviendra un grand homme avec sa statue sur les places de nos rues, comme l'ont aujourd'hui Colbert, Sully, Talleyrand, des noms de plaques, ainsi de suite. C'est-à-dire que on n'est pas un grand homme en se laissant porter par les flots des vents contraires, mais en les affrontant, quoi.
Il y a des mesures qui nous semblent devoir être mises en débat qui ne sont pas liées à la frontière, à des frontières nationales. C'est la question, nous, ce qu'on appelle la taxe kilométrique. Hein, c'est-à-dire, on avait la taxe Tobin, qui est en train d'avancer très lentement, mais qui est en train d'avancer, qui est une taxe sur les transactions financières. La taxe kilométrique, c'est une taxe sur la circulation, non pas des flux financiers, mais des marchandises, et une taxe proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus, indépendamment de la frontière. Que vous alliez de Marseille à Lyon ou de Marseille à Turin, finalement, la distance va être la même. Ce qui compte, c'est la distance, c'est pas la frontière. Et là, avec une taxe kilométrique, on renchérit le coût des transports, donc on affaiblit l'incitation à la délocalisation, et on lutte contre le libre-échange, mais en évitant de sacraliser la frontière.
Les irréalistes, ce sont eux. C'est-à-dire, ce sont tous ceux qui nous traitent d'irréalistes quand nous disons qu'il faut de l'inflation, quand nous disons qu'il faut des banqueroutes, quand nous disons que tous ces outils sont à réutiliser. Ils nous traitent d'irréalistes, mais en fait, l'irréalisme, c'est eux. Parce que l'austérité... Dans l'histoire de France, je l'ai pas vu marcher, moi. L'austérité aujourd'hui en Europe, ça mène à la catastrophe. Donc l'irréalisme, c'est ceux qui pensent qu'on peut s'en sortir en fonçant plus loin dans le même mur et en appuyant sur l'accélérateur, quoi.
Merci à tous les trois. Merci. Salut. Merci. Voilà, merci à toutes et à tous. C'était Avant la dette, vive la banqueroute. Merci à nos invités de Attaque, Thomas Coutreau et Yohann Dubigeon, co-auteurs avec Geneviève Azam et Nicolas Heringer de Leur dette, notre démocratie aux éditions Les liens qui libèrent. Et puis, merci aussi à notre François Ruffin qui a co-dirigé avec Thomas Morel le livre Vive la banqueroute, comment la France a réglé ses dettes de Philippe le Bel au général de Gaulle, paru le 16 mai dernier aux éditions Fakir.
Sur le même sujet, vous pouvez visionner un entretien vidéo de François Ruffin avec Frédéric Lordon sur le site Fakir Presse Info. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Programme, émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez également réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis, il y a aussi la page Facebook de Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Michel Bézikian et Fabien Laléouze. Lucie Hacoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch et Marion Dupas. Attendez à présent vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Mais tais-toi un peu, tu vas...